Vous écoutez France Culture.
Depuis les années 80, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch mène un travail d'enquête au cœur des traumatismes de l'histoire soviétique. Lors de longs tête-à-tête, elle écoute et consigne la parole longtemps bridée des témoins, avec le souci de mettre au jour les conséquences intimes des catastrophes de la grande histoire. On lui doit notamment les cercueils de zinc sur la guerre russo-afghane ou la supplication sur les victimes de Tchernobyl. Dans son dernier ouvrage, La fin de l'homme rouge, sous-titré Le temps du désenchantement, Svetlana Alexievitch s'attache à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'urgence est de consigner les traces que le socialisme a laissées dans l'âme et la vie des gens. Les personnes interrogées sont souvent des femmes, des veuves, des mères, des fiancées. Elles ont connu plus souvent le malheur que le bonheur. Pas une famille russe qui n'ait sa part de tragédie. Nous vous proposons d'écouter 5 de ces témoignages. 5 femmes, 5 destins ancrés dans l'époque soviétique.
Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Svetlana Alexievitch.
Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу. Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых.
Вопрос стоит более конкретно. Где я хочу жить? В великой стране или в нормальной?
La fin de l'homme rouge. De Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait. Jean-Pierre Thibaudat.
Время было важно. Перестройка.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio.
Казалось, что вот-вот куда-то взлетим. Свобода была разлита в воздухе.
Quatrième émission.
Alice Z, chef de publicité, 35 ans.
J'ai débarqué à Moscou il y a 10 ans. J'étais pleine de rage et d'énergie. Je m'étais dit, je suis née pour être heureuse. Ce sont les faibles qui souffrent. La modestie est la parure des faibles. Je viens de Rostov. Mes parents sont enseignants. Mon père est professeur de chimie et ma mère de russe. Ils se sont mariés pendant leurs études. Mon père ne possédait qu'un seul costume convenable, mais il avait des idées à revendre. Et à l'époque, c'était suffisant pour tourner la tête d'une fille. Aujourd'hui encore, ils aiment évoquer le temps où ils se débrouillaient avec une seule paire de draps, un seul oreiller, une seule paire de pantoufles. Ils se récitaient du Pasternak pendant des nuits entières. Ils connaissaient ces poèmes par cœur. Quand on aime, on est au paradis, même dans un taudis. Je leur répondais en riant, « Oui, jusqu'à l'arrivée du froid. Tu n'as aucune fantaisie, protestait maman. » Nous étions une famille soviétique ordinaire. Le matin, de la kasha ou des pâtes à l'huile de tournesol et des oranges une fois par an pour le nouvel an. Je me souviens même de leur odeur. Pas celle de maintenant, celle de ce temps-là. C'était l'odeur d'une autre vie, une vie magnifique. Nous passions les vacances d'été sur la mer Noire. Nous allions à Sotchi et nous logions chez l'habitant, tous dans la même pièce, 9 mètres carrés. Mais nous étions fiers, et même très fiers. Fiers de nos livres préférés que l'on se procurait sous le manteau grâce à des relations. Et il y avait aussi une autre joie, les invitations aux premières. Maman avait une amie qui travaillait dans un théâtre. Oh. Le théâtre. L'éternel sujet de conversation des gens bien. Aujourd'hui, on parle de l'Union soviétique comme d'un immense camp, un ghetto communiste, un monde féroce. Moi, je n'ai aucun souvenir épouvantable. Je me souviens qu'il était naïf, ce monde. Très naïf et absurde. J'ai toujours su que je ne vivrais pas de cette façon-là. Je n'en avais pas envie. J'ai failli me faire renvoyer de l'école pour ça. Ah là là. Ouais. Être né en URSS, c'est une maladie. Une tare. Nous avions des cours de travaux ménagers. Les garçons, eux, je ne sais pas pourquoi, on leur apprenait à conduire des voitures. Et les filles, à préparer des boulettes de viande. Moi, je les ai toujours brûlées, ces satanées boulettes de viande. Un jour, la prof, qui était d'ailleurs notre prof principale, m'a passé un savon. Tu ne sais rien faire. Comment pourras-tu cuisiner pour ton mari quand tu seras mariée? J'ai aussitôt rétorqué. Je n'ai aucune intention de préparer des boulettes de viande. J'aurai une domestique pour ça. C'était en 1987. J'avais 13 ans. Il n'était pas encore question de capitalisme ni de domestique à ce moment-là. C'était encore le socialisme à fond la caisse. Mes parents ont été convoqués chez le directeur de l'école. On m'a blâmée devant toute la classe. On voulait m'exclure des pionniers. Les pionniers et les comsomols, c'était du sérieux. J'en ai même pleuré. Quand je restais seule à la maison, je mettais une robe de ma mère, ses chaussures, et je m'installais sur le divan pour lire Anna Karénine. Les bals, les domestiques, les hommes avec des favoris, les rendez-vous amoureux, tout me plaisait, tout. Jusqu'au moment où Anna se jetait sous le train. Pourquoi faisait-elle ça? Elle était belle, elle était riche. Par amour? Même Tolstoï n'arrivait pas à me convaincre. J'aimais mieux les romans occidentaux. Je préférais les garces, les belles garces, devant lesquelles les hommes se traînent à genoux, pour lesquelles ils souffrent et se tirent une balle dans la tête. À 17 ans, j'ai pleuré pour la dernière fois, à cause d'un amour malheureux. J'ai passé toute une nuit dans la salle de bain en laissant couler le robinet. Maman me réconfortait avec des poèmes de Pasternak. Je m'en souviens encore. Être une femme, c'est un grand pas. Rendre fou, c'est un exploit. Je n'aime pas mon enfance, ni mon adolescence. J'ai passé mon temps à attendre que ça se termine. J'ai bûché comme une folle, je faisais de la gymnastique. Courir plus vite que tout le monde, sauter le plus haut, être la plus forte. À la maison, on écoutait des cassettes d'Okudjava. Prenons-nous par la main, les amis. Non, c'est pas mon idéal. Je rêvais de Moscou. Oh, Moscou. J'ai toujours vu cette ville comme une rivale, dès la première minute. Elle a déclenché en moi une sorte de rage sportive. J'avais 200 dollars en poche, 200 billets verts et un peu d'argent soviétique, c'était tout. Ah, les folles années 90. Mes parents ne touchaient plus leur salaire depuis longtemps. C'était la misère. Papa n'arrêtait pas de nous répéter « Il faut supporter, attendre ». Les gens comme mes parents n'avaient pas encore réalisé que c'était les débuts du capitalisme. Mais un capitalisme à la russe, jeune et coriace. Celui-là même qui s'était effondré en 1917. Est-ce qu'ils le comprennent maintenant? C'est difficile à dire. Il y a une chose dont je suis sûre. Mes parents ne voulaient pas le capitalisme, dans aucune de ses variantes. Le capitalisme, c'est moi qui l'ai voulu. Moi et les gens comme moi, qui ne souhaitaient pas vivre dans une cage, des gens jeunes et forts. Pour nous, le capitalisme, c'est intéressant. C'est une aventure, un risque. Depuis la fin de l'Empire, mon père s'ennuie et n'a plus de raison de vivre. De façon générale, ils sont déçus, ceux de sa génération. Ils ont un double sentiment de défaite. L'idéal communiste a subi un échec total, et ce qui s'est passé après, ils ne le comprennent pas. Ils ne l'acceptent pas. Ce monde n'est pas le leur. Il leur est étranger. Mais c'est mon monde, à moi. Le mien. Je suis arrivée à Moscou en stop. C'était moins cher. Il pleuvait à verse. Mais je suis quand même allée sur la place Rouge pour voir les coupoles de Saint-Basile et le mur du Kremlin. Toute cette puissance, toute cette force. Et j'étais là, au cœur même du monde. Je boitais, car avant de partir, je m'étais cassé le petit orteil à un entraînement. Mais je portais des talons hauts et j'avais mis ma plus belle robe. Bien sûr, le destin, c'est la chance. Il faut tirer une bonne carte. Mais moi, j'ai du flair. Et je sais ce que je veux. Le monde ne vous donne rien comme ça, gratis. Tiens, vas-y, serre-toi. Il faut le vouloir très fort. Et je le voulais. On ne m'a pas fait de cadeau. Et j'ai de bonnes raisons de m'aimer. Je suis entrée à l'université de Moscou sans cours supplémentaires, sans argent ni piston, en faculté de journalisme. En première année, un étudiant est tombé amoureux de moi et m'a demandé « Et toi, tu es amoureuse ?» Je lui ai répondu « Je suis amoureuse de moi-même. » J'ai tout obtenu toute seule, sans personne. Les autres étudiants ne m'intéressaient pas. Les cours m'ennuyaient. Ils étaient faits par des enseignants soviétiques, d'après des manuels soviétiques. Alors qu'autour de nous bouillonnait une vie qui n'avait plus rien de soviétique. Une vie sauvage, folle. Quand on a vu apparaître les premiers 4x4 étrangers, c'était trop génial. Le premier McDonald's de Place Pouchkine. Avant, tout était gris. Et là, il y avait des couleurs vives, des enseignes criardes. On avait envie de tout. On pouvait tout avoir. Être ce qu'on voulait. Trader, tueur à gages, homosexuel. Les années 90. C'est une époque bénie pour moi. Inoubliable. Ça m'a collé à la peau pendant longtemps. Cette étiquette de jeune fille de bonne famille venant d'une maison pleine de livres. Le plus important, c'est la bibliothèque. Les hommes qui me remarquaient, c'était toujours des écrivains, des artistes, des génies méconnus. Mais j'avais aucune intention de consacrer ma vie à un génie qui serait reconnu après sa mort et apprécié par nos descendants. Sans parler de ces conversations dont j'avais déjà soupé à la maison, sur le communisme, le sens de la vie, le bonheur des autres, sur Solzhenitsyn et Sakharov, non. C'était pas mes idoles, c'était celles de ma mère. Les gens qui lisaient et qui rêvaient de voler, comme la mouette de Tchekhov, étaient remplacés par des gens qui ne lisaient pas, mais qui étaient capables de voler. Moi, ceux que j'ai rencontrés avaient une logique de faire et une poigne de fer. Une façon de penser systématique. Ils avaient tous appris l'anglais et fait des études de management. Les académiciens et les docteurs quittaient le pays, les physiciens, les hommes de lettres aussi, alors que ces nouveaux héros, eux, n'avaient aucune envie de partir. Ça leur plaisait de vivre en Russie. Ils voulaient faire fortune. Ils voulaient tout, absolument tout. Et je l'ai rencontré. Lui. Je crois que je l'aimais. Il avait 20 ans de plus que moi. Deux fils et une femme jalouse qui passait sa vie au peigne fin. Mais on était fous l'un de l'autre. C'était un tel élan, une telle ivresse. J'ai connu tout ça. La période des chocolats et des bouquets. Il m'appelait le soir pour me dire « On prend l'avion pour Paris demain matin. » Ou bien « On part aux Canaries. J'ai 3 jours devant moi. » Des voyages en première classe, des chambres dans des hôtels luxueux, avec sous les pieds un sol en verre, des poissons qui nagent, un requin vivant. Il savait faire jaillir des arcs-en-ciel des fontaines. J'étais amoureuse. Mais pour lui, c'était juste du bon temps qu'il s'offrait. Peut-être que je le comprendrai un jour, quand j'aurai 40 ans. Quand on me croise dans la rue, on se dit « voilà une femme riche et heureuse ». J'ai tout. Un grand appartement, une voiture de luxe, des meubles italiens et une fille que j'adore. J'ai une domestique. Je ne prépare pas les boulettes de viande moi-même. Je ne fais pas la lessive. Je peux m'acheter tout ce que je veux, des montagnes de bibelots. Mais je vis seule. Et je tiens à vivre seule. Il n'y a personne avec qui je me sente aussi bien qu'avec moi-même. J'aime bien parler toute seule, surtout de moi-même. La solitude, c'est la liberté. Tous les jours, je me réjouis d'être libre. Va-t-il téléphoner ou non? Va-t-il venir ou non? Va-t-il me quitter? Je m'en fous, c'est pas mon problème. Non, la solitude me fait pas peur. Je voulais un enfant de lui, mais je suis tombée enceinte. Peut-être qu'il a eu peur. Les hommes sont tous des lâches. Qu'ils soient des sans-abri ou des oligarques, ça ne fait aucune différence. Ils sont partants pour faire la guerre et la révolution, mais en amour, ce sont des traîtres. Les femmes sont bien plus fortes. Je me souviens, ça s'est passé comme ça. Je lui avais annoncé la nouvelle juste avant de partir en mission. On m'envoyait dans le Donbass. Je suis restée là-bas 3 jours. Quand je suis rentrée, nous nous sommes vus. Au début, il était content. Nous allions avoir un enfant. Il avait déjà 2 fils. Il voulait une fille. Mais les mots, ça ne veut pas dire grand-chose. On se cache derrière. On s'en sert comme d'un rempart. Il y avait ses yeux. Et dans ses yeux, je lisais de la peur. Il allait falloir prendre une décision, changer de vie. Et là, je le regardais et le bout de mes doigts devenait tout froid. Je commençais à comprendre que je ne serais pas heureuse avec lui. J'étais jeune et bête. Maintenant, je le traquerais comme on traque les loups. Je sais être une prédatrice et une panthère, un fil d'acier. Mais à l'époque, je me contentais de souffrir. La souffrance, c'est une danse, avec des gestes, des gémissements, de la résignation, comme dans un ballet. Mais il y a un secret très simple. Être malheureux, c'est désagréable, c'est humiliant. J'étais hospitalisée de temps en temps pour ne pas perdre le bébé. Et un matin, je lui ai téléphoné pour lui demander de passer me prendre. Il m'a dit d'une voix ensommeillée « Aujourd'hui, je ne peux pas. » Ça fait 7 ans que nous sommes séparés. Il me téléphone, toujours la nuit, je ne sais pas pourquoi. Les choses vont mal pour lui. Il a perdu beaucoup d'argent. Il dit qu'il n'est pas heureux. Il avait une petite amie, une jeune, maintenant il en a une autre. Il propose qu'on se revoie. À quoi bon? Pendant longtemps, il m'a manqué. J'éteignais la lumière et je restais des heures dans le noir. Je me perdais dans le temps. Ensuite, je n'ai eu que des petites liaisons, de rien du tout. Mais jamais je ne pourrais tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas d'argent, qui vit dans une banlieue dortoir. Je déteste les gens qui ont grandi dans la misère. Ils ont une mentalité de pauvre. L'argent compte tellement pour eux qu'on ne peut pas leur faire confiance. Je n'aime pas les pauvres, les humiliés, les offensés. Tous ces Akaki Akakievitch et ces Opiskin, les héros de la grande littérature russe, je ne leur fais pas confiance. Ce n'est pas l'argent qui m'attire chez un homme, ou pas seulement l'argent. Ce qui me plaît, C'est toute la personne de l'homme qui a réussi. Sa façon de marcher, de conduire une voiture, de parler, de faire la cour. Tout est différent chez lui, tout. Ce sont ces hommes-là que je choisis. Pour ça. Il me téléphone. Il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il ne peut pas acheter? Lui et ses amis, ils ont déjà gagné de l'argent. Ils possèdent des fortunes hallucinantes. Ils sautent dans leur avion privé pour aller voir un match de foot dans n'importe quel pays ou pour assister à la première d'un chanteur à New York. Rien n'est au-dessus de leurs moyens. Mais ils en ont assez de tout ça. Ils s'ennuient. Il y a des distractions dont on ne parle pas dans les dépliants touristiques. Quelque chose d'ultra secret. On peut organiser des chasses à l'homme la nuit. On donne 1 000 $ à un malheureux SDF. Tiens, c'est pour toi. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Son boulot, c'est de faire la proie. S'il en réchappe, tant mieux pour lui. Et s'il se fait descendre, tant pis. C'est honnête comme marché, non ? On peut aussi avoir une petite fille pour une nuit. Donner libre cours à ses fantasmes les plus fous et faire des choses dont même le marquis de Sade n'aurait jamais rêvé. Du sang, des larmes et du sperme. Ça s'appelle le bonheur à la russe. Passer 2 jours en prison pour ensuite en sortir et réaliser à quel point on a une vie géniale. Et tous ces gens sont nés en URSS. Ils viennent tous de là-bas, avec la même maladie. C'était un monde tellement naïf. On rêvait de créer un homme bon. On promettait de mener d'une main de fer l'humanité vers le bonheur, jusqu'au paradis terrestre. J'ai eu une discussion avec ma mère. Elle veut démissionner de son école. Je travaillerai dans un vestiaire, ou comme concierge. Quand elle parle aux enfants des livres de Solzhenitsyn, des héros, des justes, elle a les yeux qui brillent, mais pas les enfants. Or, elle a l'habitude de voir briller leurs yeux quand elle parle. Mais les enfants d'aujourd'hui lui répondent « Oui, ça nous intéresse de savoir comment vous viviez. Mais nous, on ne veut pas vivre comme ça. On ne rêve pas d'accomplir des exploits. On veut une vie normale. » Quand j'étais jeune, j'aimais bien changer, provoquer le destin. Mais plus maintenant, ça suffit. J'ai une fille qui grandit, je pense à son avenir et ça coûte cher. Je veux gagner cet argent moi-même, ne rien demander à personne, surtout pas. J'ai quitté le journal pour une agence de publicité, ça paye mieux. Ça paye même très bien. Le monde a changé. Maintenant, les gens seuls, ce sont ceux qui ont réussi. Ceux qui sont heureux, et non les faibles ou les ratés. Je veux avancer. Je suis une chasseresse, pas une proie soumise. C'est moi qui choisis. La solitude ressemble beaucoup au bonheur. On dirait une révélation, hein ? En fait, c'est pas à vous que j'avais envie de dire tout ça. C'est à moi-même.
C'était « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait, Jean-Pierre Thibaudat. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. 4e émission avec Violaine Schwartz. Et les voix de Olga Kokorina, Nikolai Yaroshenko, Vladimir Hant et Julien Gaillard. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière et Catel Guillou. Équipe de réalisation, Julien Doumain, Émilie Couette, Clémence Cros, Laure Egorov. La fin de l'homme rouge est publié aux éditions Actes Sud.